Radio Prague, les informations.
Le Parti social-démocrate tchèque demande à la Cour constitutionnelle d'abolir 14 lois. Le Premier ministre Petr Nečas à Paris vendredi avec Temelin au centre des préoccupations. Le ministre de la Justice portera des plaintes disciplinaires contre 4 procureurs. Le Parti social-démocrate tchèque, ČSSD, a porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle contre l'ensemble de 14 lois imposées par la coalition gouvernementale. Il s'agit des lois par lesquelles la coalition envisage de réaliser la réforme du système social et qui lui permettront aussi d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée. Le chef de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, rappelle que pour imposer rapidement ces lois dans la Chambre des députés, la coalition a raccourci les allocutions des députés devant la Chambre. D'après le ČSSD, c'était une violation des droits des députés et les lois adoptées de cette façon devraient donc être abolies. Le Premier ministre tchèque effectuera une visite en France ce vendredi à Paris. Petr Nečas sera reçu par son homologue François Fillon pour un entretien qui portera notamment sur la gouvernance économique européenne et la crise de la dette en Europe après le Conseil européen des 8 et 9 décembre dernier. Cet entretien portera également sur les relations bilatérales et non après la signature par les deux chefs de gouvernement du plan d'action, du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que sur la dimension énergétique de la relation franco-tchèque, notamment bien entendu, dans le cadre de l'appel d'offres pour l'extension de la centrale nucléaire de Temelín. Le ministre tchèque de la Justice, Jiří Pospíšil, portera des plaintes disciplinaires contre l'ancien procureur principal du parquet de Prague, Vlastimil Rampula, et 3 autres procureurs. Il leur reproche la réaction passive à la demande de collaboration juridique dans l'affaire de la privatisation de la société minière de Most, Mostecká Uhelná, demande qui leur a été adressée par la justice suisse. Le ministre proposera à la Cour disciplinaire de suspendre l'exercice de fonction des 4 procureurs jusqu'à la fin de la procédure qui a été ouverte contre eux. Le projet de réforme de l'enseignement supérieur en République tchèque est contesté par 20 des 26 sénats académiques des universités. Les présidents des sénats ont appelé les étudiants à protester contre le projet par des pétitions et des grèves. Ils accusent le ministre de l'Éducation, Josep Dobeš, de dénaturer leurs revendications et envisagent d'adresser maintenant leurs objections directement au gouvernement. Météo. C'est un temps pluvieux et venteux qui règne sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Dalimil. Il pleut en plaine et il neige en altitude à partir de 500 mètres. Les températures ont varié en plaine entre 1 et 5 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel en République tchèque sera couvert à nuageux avec des chutes de neige par endroits. Les températures maximales s'échelonneront de 1 à 4 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité au sommaire de laquelle figure tout d'abord le scandale des prothèses mammaires défectueuses et fabriquées en France. L'affaire fait aussi beaucoup parler en République tchèque, mais les autorités sanitaires appellent pour l'instant surtout à ne pas paniquer, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Culture ensuite avec de la corrida, tradition du sud de l'Europe, notamment vue par Picasso, Goya, Dali et aussi les peintres tchèques. Et puis la seconde partie du programme sera consacrée à Lenka Frolíková, qui a fondé en 2001 l'enseignement de langue, de littérature et de culture tchèque, tout cela à l'université de Nancy. Nous entendrons un large entretien, mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Le scandale des implants mammaires PIP dévoilés en France début décembre est devenu planétaire depuis, fait couler beaucoup d'encre aussi en République tchèque. Mais si les autorités sanitaires ont recommandé aux femmes qui ont reçu des prothèses défectueuses de consulter leur médecin et de se soumettre à un examen, elles appellent aussi et surtout à ne pas céder à une panique qui, selon elles, n'a pas lieu d'être en République tchèque. L'Agence nationale de sécurité sanitaire des médicaments a recommandé aux femmes qui ont reçu des prothèses mammaires fabriquées par la société française Poly Implant Prothèses de consulter leur médecin après le retrait de ces implants en France. L'agence, qui est en contact avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, souligne toutefois que jusqu'à présent, aucun effet indésirable lié à ces implants n'a été signalé dans le pays. L'agence tchèque ne dispose pas de statistiques concernant le nombre de femmes en République tchèque ayant reçu ces prothèses avant leur interdiction en avril 2010. Mais comme l'explique Miroslava Skovajsova, présidente de l'Association pour le diagnostic du cancer du sein, il convient de ne pas céder à la panique. On l'écoute.
Ces implants PIP sont actuellement omniprésents sur Internet et à la télévision, mais je pense surtout qu'il faut rester raisonnable. Les femmes qui font une mammographie tous les ans doivent continuer. Quant aux autres, nous leur conseillons de se renseigner auprès de leur chirurgien esthétique pour qu'elles aillent elles aussi passer un examen, car le degré d'érudition du radiologue est très important. Je n'ai aucune crainte sur le fait que nous aurons rapidement la situation sous contrôle en République tchèque.
L'avis de la présidente de l'Association pour le diagnostic du cancer du sein est également partagé par Roman Kufa, chirurgien esthétique dans une clinique privée pragoise. Celui-ci estime cependant que les choses pourraient rapidement évoluer.
Il y a encore de cela peu de temps, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des médicaments recommandait seulement aux patientes de consulter leur médecin et de se soumettre à un examen par ultrason afin de contrôler si les implants sont défectueux ou non. Mais depuis que le gouvernement français a recommandé à toutes les femmes qui portent en France des prothèses de se les faire retirer, je pense que l'attitude qui sera adoptée en République tchèque sera la même.
Takže já předpokládám, že tady toto bude pokračovat i u nás a že to stanovisko bude asi stejné.
Roman Kufa approuve donc la décision prise par les autorités françaises, contrainte elle de réagir dans l'urgence depuis l'éclatement du scandale.
Je pense en effet que c'est une décision rationnelle car nous ne savons vraiment pas quelle femme dans le pays porte cette prothèse. Or, il y a un risque réel de fuite de ce gel de silicone industriel et de rupture des prothèses. La société PIP distribuait ses implants en République tchèque depuis 2006, mais aujourd'hui, personne ne connaît le nombre exact qui a été vendu.
Pour autant, encore une fois, Miroslava Skovajsova estime que le plus important dans l'immédiat est de ne pas se précipiter et de prendre une décision correspondant au contexte tchèque.
J'ai le sentiment que tout cela est un peu tiré par les cheveux et qu'on fait beaucoup de bruit pour rien autour de cette affaire. Bien sûr, nous sommes bien informés, mais qu'il s'agisse des implants PIP ou d'une autre société, toute femme qui décide de porter une prothèse doit savoir qu'elle risque des complications médicales plus ou moins graves. Chaque corps réagit différemment à la présence de la prothèse. Je dois dire que les chirurgiens esthétiques tchèques ont jusqu'à présent plutôt bien réagi en appelant leurs patientes à passer un examen préventif.
Ce vendredi, le ministère de la Santé devrait faire connaître sa position sur l'attitude à adopter dans cette affaire qui, pour l'heure, n'inquiète donc pas encore plus que ça les autorités sanitaires tchèques. Place maintenant, pour la première fois peut-être dans l'histoire de Radio Prague, à la corrida. Tauromaquia. Face à face avec le taureau est en effet une exposition qui se déroule actuellement à la maison municipale de Prague jusqu'au 9 avril. Y sont exposés des tableaux de plusieurs peintres tchèques inspirés par la corrida, mais aussi et surtout des dessins de Goya, Dali et Picasso. Monika Burian est la commissaire de l'exposition qu'elle présente au micro d'Anna Kubishta.
En principe, tauromaquia ou tauromachie, comme vous dites, ça veut dire le combattement entre le toréador et le taureau. Mais ici, dans ce cas, on a voulu montrer aussi pour la première fois les trois grands tauromachies, la tauromachie du Picasso, du Goya et Dali ensemble, parce que dans le passé, les expositions qu'il y a eu toujours qu'une de ces trois. Goya, naturellement, tous partent de lui, Picasso qui s'est laissé influencer par Goya. Et comme beaucoup de monde sache, Picasso était un enthousiaste de la reine. Ici, à l'exposition, on a voulu montrer cette passion du Picasso et d'autres.
Alors justement, quand vous dites d'autres, il n'y a pas que Picasso, Dali et Goya, mais il y a également
chose à laquelle on ne s'attendrait pas forcément des Tchèques.
Bien sûr, il y a l'artiste Fila Echapek et d'autres artistes comme Mislbeck pour entrer dans le passé. Ça dépend d'abord d'un autre concept des grandes expositions pour Obecný dům aujourd'hui et pour le futur, où on veut montrer le contexte des artistes tchèques, de leurs contemporains en même temps dans le monde de l'art. Et ici, le très intéressant, c'est que Picasso a peint le tableau du Guernica en 1937 comme le proteste contre le bombardement de la ville du Guernica. On a eu la chance d'avoir le dessin préparatoire pour la tapisserie qu'on est assis devant et je pense très impressionnante parce que c'est dans la taille 1 à 1, alors 7 mètres par 3,50 mètres.
Oui, c'est immense. Hein.
C'est immense, oui, oui. Moi, j'ai imaginé, en plus, on a eu la fortune qu'ici, il y a cette espèce de chapelle où les murs sont plus hauts que les autres murs de l'exposition et je pense que c'est l'endroit digne de cet dessin. Et pratiquement, le dessin était fait par Picasso et sa mère comme le dessin pour pouvoir produire la tapisserie que peut-être votre écouteur sache qu'il y a une en France, dans un musée, après à l'ONU et en Japon, dans la salle du Parlement.
Alors, pour revenir justement à ce thème hein, de la tauromachie, qu'est-ce qui, selon vous, fascine les artistes, en dehors du fait, en effet, que Picasso, Goya, Mohamed Ali étaient espagnols, hein, donc il y avait quand même un côté culturel, mais visiblement, Čapek, Fila et d'autres sont fascinés par la tauromachie en tant que peintre.
Dans le cas du Fila, on peut très bien voir ici, qu'est-ce que je commence à dire, Picasso 37, Fila 38 jusqu'à 42. Ces tableaux, les combats de deux bêtes, où lui a voulu, voulu montrer l'expression de proteste contre le système fasciste ici en Tchécoslovaquie à l'époque. Fila est très très bien connu pour les tableaux cubistes, mais presque personne ne sache et connaît cette série du presque 20 tableaux des combats avec la bête, comme ils sont appelés, et on a pu réunir une dizaine. Les presses sont des institutions très importantes, comme la Galerie nationale du Prague, la Galerie du Central Bohème, Galerie du Neumann et d'autres dans les régions. Alors on est très contents, et aussi pour les visiteurs, je pense que c'est intéressant de le voir. Et Čapek ou Mislbeck, ils ont fait leur voyage en Espagne, et ils ont vu cette culture et ils ont été très, très intéressés d'y communiquer cette culture, je pense, cette, un certain sens, cruauté et cette situation directe qui arrive dans l'arène où l'homme combat avec le taureau.
Voilà, c'était donc Monica Burian, la commissaire de l'exposition intitulée Tauromachia face à face avec le taureau. Cette exposition se tient à Prague, à la maison municipale, jusqu'au 9 avril. Monica Burian répondait aux questions d'Anna Kubista. Voilà, c'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également, vous le savez, de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. Aujourd'hui, nous accueillons Lenka Frolíková, qui a fondé en 2001 l'enseignement de langue, de littérature et de culture tchèque à l'université de Nancy. Après avoir d'abord enseigné le français à Prague, Lenka Frolíková a obtenu son premier poste à la section tchèque du lycée Daudet de Nîmes en 1993. Lenka Frolíková a ensuite enchaîné par l'enseignement du tchèque à l'université Stendhal de Grenoble et enfin à l'université Nancy 2. Professeure, organisatrice d'événements culturels franco-tchèques, auteure d'un manuel de tchèque à succès intitulé Adam a Eva v Českém raji, soit Adam et Ève au paradis tchèque, Lenka Frolíková se consacre également à la traduction en français de la poésie de Jan Skatzel et de Bohuslav Rajnek, à qui Radio Prague a récemment consacré une émission spéciale. De passage à Prague, Lenka Frolíková a parlé au micro de Magdalena Rozinková de ses traductions, notamment en commençant par évoquer ses liens avec l'association Romarin de Grenoble qui promeut l'œuvre de Bohuslav Rajnek et de son épouse Suzanne Renaud en France. On écoute Lenka Frolíková, elle est au micro de Magdalena Rozinková.
Mmh. les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Quand je suis arrivée à Grenoble, le premier jour, je suis allée me présenter à l'université. Et parce que depuis toujours, je vis beaucoup la culture. Le lendemain, je me suis rendue au musée des Beaux-Arts de Grenoble. Après la visite de ce musée, je regarde tout ce qui est écrit autour de moi et je vois Romarin, les amis de Bouzla Breinec et Suzanne Reynon, et l'adresse de la présidente de l'association, le numéro de téléphone. Ça m'a entièrement surpris parce que c'était ma deuxième journée à Grenoble et j'ai vu déjà un nom de la culture tchèque. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Madame Aniko Zimur et elle m'a dit « Mais c'est très bien, nous préparons ici une exposition Bohuslav Reinek, nous préparons des publications sur Bohuslav Reinek, nous aimerions beaucoup collaborer avec vous parce que vous êtes bilingue, vous parlez français, vous parlez tchèque, alors si vous voulez, venez ». Et comme ça, j'ai fait la connaissance de cette personnalité vraiment particulière, extraordinaire, magnifique, qui a consacré presque toute sa vie à l'œuvre de Bohuslav Reinek. J'ai fait aussi la connaissance des autres membres de l'association Romarin, parmi lesquels il y a eu aussi des personnes qui connaissaient encore Bohuslav Reinek et son épouse. Et comme ça a commencé ma relation de plus en plus étroite avec l'œuvre de Bohuslav Reinek, surtout avec l'œuvre poétique, mais aussi avec l'œuvre d'art plastique.
Vous avez traduit les poèmes de certains poèmes de Bohuslav Reinek. Le livre a été publié en 2006 à Prague et c'est une édition bilingue. Pourriez-vous présenter cette œuvre et dire quelle était pour vous la principale difficulté en traduisant un Bohuslav Reinek qui vous est cher comme poète?
Bien sûr, j'ai connu Bohuslav Reinek, mais pendant mes années grenobloises et aussi plus tard, j'ai commencé à connaître son œuvre vraiment en profondeur. Et chaque fois, j'ai regretté que le public français n'avait pas tellement de possibilités de lire Bohuslav Reinek en leur langue. Donc, je me suis décidée à traduire une douzaine de poèmes de Bohuslav Reinek. C'est vrai que mon choix était assez personnel. Donc, j'ai choisi les poèmes que j'ai énormément aimés moi-même. La traduction s'est faite aussi dans une bonne situation parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un très bon étudiant qui est aujourd'hui un bohémiste français qui s'appelle Stanislas Markevitch qui écrit lui-même de la poésie. La traduction a été faite en collaboration avec lui. Et c'est vrai, c'était un travail très difficile.
Vous dites que la langue de Reinek semble simple et ancrée dans la vie de tous les jours, mais qu'elle est en même temps très élevée, souvent archaïsante. C'était peut-être ça une des difficultés pour vous?
Oui, bien sûr, la difficulté est là parce que justement, ce qui paraît le plus simple est en quelque sorte le plus sage. Parce que dans ces mots qui seulement sur apparence sont simples, il y a tellement de connotations, tellement de couches qui se trouvent quelque part en profondeur qu'il faut beaucoup y réfléchir. Et puis, il y a des problèmes qui sont liés, bien sûr, à la différence de des langues. Pour vous donner juste un exemple, si je me souviens bien, c'est dans le poème qui s'appelle « Les canards dans la cour ». Alors, dans l'original tchèque, on parle de « kachny hnědé jako sovy ». Kachna est en tchèque le féminin. Sova en tchèque, c'est le féminin aussi. Mais en français, c'est pas ça. Donc, nous avons été obligés de trouver une autre solution. Et notre solution, au fait, c'est que les canes sont brunes comme des chouettes. Et là, il faut aller dans les encyclopédies pour savoir si sova,
hibou,
chouette, si tchèque ont la même couleur, si les deux animaux sont vraiment bruns, si ils ont le même caractère, si c'est possible quand même de changer sova pour si tchèque. Donc finalement, là, vous êtes dans un autre domaine, non seulement dans le domaine de la littérature, parce qu'il faut trouver une solution, mais cette solution doit avoir aussi sa logique. Et ça, c'est juste un seul exemple, pas encore aussi difficile. Mais comment faire, par exemple, avec les accents, parce que le tchèque a l'accent sur la première syllabe, l'accent tonique, le français à la dernière syllabe. Donc, pour que le vers garde son unité, non seulement dans le domaine du sens, mais aussi dans le domaine de la forme, il faut très réfléchir et donc il faut penser à toutes les nuances. Donc, les difficultés sont un peu partout. Je pense que tous les traducteurs le savent, mais en poésie, je pense que les difficultés sont encore doubles.
Vous avez enseigné le tchèque et la littérature tchèque d'abord à Grenoble, puis à Nancy, où d'ailleurs vous avez fêté 10 ans, je crois, cette année d'enseignement de la langue et de la culture tchèque. Qui sont en fait vos étudiants? Ils apprennent le tchèque dans le cadre de leurs études ou c'est seulement leur intérêt personnel?
À l'université de Nancy, le tchèque est enseigné aux étudiants non spécialistes. Ce sont les étudiants de toutes les spécialités possibles. Ce sont des musicologues, des psychologues, des linguistes, des littéraires, des sociologues, des philosophes. J'ai aussi beaucoup d'historiens qui apprennent le tchèque. Et à l'université de Nancy 2, qui d'ailleurs en 2012 va s'appeler l'Université de Lorraine, ce sera une grande université parce que 4 universités lorraines ont fait une fusion. Voilà pourquoi le changement de nom. Là, on enseigne non seulement la langue et la littérature tchèque, mais on enseigne aussi la culture tchèque. Donc, nous avons le cours de langue et de littérature tchèque et puis le cours de civilisation et de culture tchèque. Et ça attire justement les étudiants de plusieurs spécialités. Les historiens sont intéressés par l'histoire de l'Europe centrale, les musicologues par l'histoire de la musique tchèque, ceux qui sont linguistes et littéraires étudient généralement et la langue tchèque et la civilisation et la culture tchèque. Et puis, parce que nous avons aussi des relations Erasmus avec 4 universités tchèques, ces étudiants très souvent choisissent pour leur mémoire, c'est-à-dire pour leur travail de diplôme, un sujet tchèque. Ils partent pour 6 mois ou pour 9 mois en République tchèque pour travailler ici, par exemple, je ne sais pas, sur la musique tchèque du XVIIIe siècle ou sur la monarchie autrichienne, du point de vue de la bohème Moravie. J'ai eu aussi des étudiants qui ont travaillé, par exemple, sur la cinématographie tchèque. D'autres étudiants travaillent sur un sujet qui est le leur, mais qui est lié à la réalité tchèque. Et j'ai parmi mes étudiants aussi ceux qui ont trouvé un travail dans ce domaine-là, qui travaillent aujourd'hui soit en République tchèque, soit en France, soit en Europe, et qui sont en quelque sorte les spécialistes de notre langue et de notre culture. Pour donner un exemple, un de mes anciens étudiants qui s'appelle Benjamin Hildebrand, il est professeur d'histoire française dans un lycée bilingue français en République tchèque, à Olomouc. Une autre étudiante, Virginie Peugeot, travaille comme galériste à Stichla Klika à Prague, où elle organise des expositions et où elle traduit aussi des artistes tchèques vers le français. à Grenoble travaille comme attachée de presse, une autre ancienne étudiante qui organise des manifestations qui sont liées à la République tchèque. Mais même dans le domaine du commerce, par exemple, un de mes anciens étudiants, qui est historien, il est parti à Prague tout d'abord pour travailler dans une agence de communication. Il s'est occupé de la promotion d'une manifestation appelée l'apéritif à la française. Et actuellement, il est un des managers de IKEA à Prague. Donc, les étudiants, grâce à leur connaissance de tchèque et de culture tchèque, ont trouvé des métiers, des professions, des carrières qui sont en train, bien sûr, encore de travailler. Et ça me fait toujours très plaisir quand je vois que les études de langue tchèque et de culture tchèque ont été importantes aussi pour leur vie professionnelle et pour leur carrière.
C'était donc la professeure de tchèque en France et traductrice Lenka Frolikova, et c'est avec elle que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité, et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy.